vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 68, l'étourdissement des paysages et des ruines. Il voyagea, il revint. Chers amis, bonjour. Ah, les ruines, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'éblouissement de la séduction, la fascination pour les vieilles choses du passé. Et aujourd'hui, guidé sur ces chemins évanouis de frêles visiteurs, avides de tant de beauté, abolir les siècles et être aimé comme un dieu, plongé dans un parfum de mélancolie et voir jaillir des sourires, on suivrait les yeux fermés, car notre émission, elle est aussi fascinée par le temps perdu et par le jeu du hasard. Bonjour Robert Becha.
Bonjour Ambroise.
Bonjour, donc vous êtes... comme un guide, hein, vous êtes professeur de collège, professeur d'histoire, et vous êtes comme un guide que l'on suit pas à pas. Vous nous emmenez à Strasbourg, en haut et en bas. Nous pensons être dans la machine à explorer le temps de H.G. Wells, et nous sommes ici en 2024 à contempler des ruines, à inventer ce que faisaient nos prédécesseurs il y a 50, 100 ou même 1000 ans. Nous observons un mur en moellon et les fondations d'une vieille maison, et il nous faut un passionné, un guide. Et c'est vous, Robert Becha, quand on regarde aussi les traces d'une civilisation. Mieux vaut être philosophe ou historien ?
Eh ben, il faut être un peu les deux. D'abord, historien pour essayer de comprendre ce que les pierres veulent bien nous parler, nous raconter de tout ce qu'elles ont vécu. Et philosophe aussi pour essayer de s'imaginer, avec beaucoup d'imagination aussi, comment on vivait à l'époque et ce que ces pierres peuvent nous donner en termes de sens historique aussi, par rapport à leur construction, par rapport à leur utilité.
C'est-à-dire qu'on cherche des leçons dans l'histoire ?
Ah oui, on cherche énormément de leçons, et de surcroît à l'heure actuelle où nous avons énormément besoin d'histoire. On est à l'heure des fake news, on est submergé par une information des fois très contradictoire, et avec une accélération de l'histoire, et on a besoin aujourd'hui d'histoire pour avoir des clés d'interprétation. On parlait d'un mur, mais ça peut être un monument, ça peut être une pierre tombale, ça peut être une maison. Et on a besoin de ces clés d'interprétation pour peut-être mieux comprendre et essayer de découvrir une lucidité citoyenne.
C'est-à-dire qu'on peut réinventer l'interprétation du passé selon la manière dont cela nous arrange aujourd'hui, parce que on a des données peut-être idéologiques ou autres.
Hélas, oui, complètement. L'histoire aujourd'hui, que vous soyez d'un camp ou dans un autre, peut facilement se réécrire, s'interpréter différemment. Vous avez un événement historique, vous pouvez avoir 3 ou 4 opinions dessus, quoi. Et il faut toujours revenir quand même aux fondamentaux, un peu comme les archéologues, construire, creuser pour trouver finalement... La vérité historique sur laquelle on ne débat plus. Lisser un peu aujourd'hui la courbe de l'actualité pour arriver à des faits tangibles.
Alors, bon, vous l'avez bien connu, notre émission sur Radio Judaïka Strasbourg, c'est la recherche du temps perdu, merci Proust, et le jeu du hasard, merci Marivaux. Vous avez un site qui s'appelle Rechercher Strasbourg.
Strasbourg en histoire.
Strasbourg en histoire. Alors, comment est née votre vocation d'historien, mais je précise, d'un historien qui se moque du temps? Parce que quand on regarde votre petite vidéo, quand même, vous prenez pas mal de liberté. C'est très drôle, hein, c'est humoristique, mais en même temps, bon, vous réinventez pas mal de choses.
Alors, ma passion d'historien, elle est venue très, très, très jeune. Le premier livre que mes parents m'ont offert était un livre d'histoire, d'ailleurs, l'histoire mondiale. Un très très gros ouvrage que j'ai dévoré très très rapidement, j'avais à peine 9-10 ans, et ma passion au fil des années s'est agrandie, s'est creusée, s'est enrichie. J'ai pu faire des études d'histoire, j'ai la chance de vivre d'un métier où je, je transmets l'histoire. Quant à mes vidéos, l'idée c'est d'aborder l'histoire d'un point de vue ludique et qu'elle soit compréhensible pour tout le monde en donnant des faits, en racontant une histoire pour la grande histoire.
Je prends un exemple, par exemple le fameux lac qui est sous la cathédrale de Strasbourg. Ben alors, ce qui est drôle, c'est que à la fin, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Est-ce qu'il y a vraiment un lac ? Le scoop sur Radio Judaïka Strasbourg. Est-ce qu'il y a vraiment un lac sous la cathédrale de Strasbourg ?
Alors, moi, ce que je trouve intéressant aussi dans l'histoire, c'est que des fois, on peut laisser planer des mystères. On n'est pas obligé de tout dire. On n'est pas obligé de tout raconter. Mais c'est vrai que pour un moment de touriste, certains s'imaginent qu'il y a en effet qu'il y a vraiment un lac sur la cathédrale. Surtout que c'est une légende urbaine qui est très très vieille et qui est répétée comme ça au fil des générations. Le mieux, ce serait peut-être d'aller voir directement. Mais est-ce qu'il y a un lac sous la cathédrale ? Eh ben moi, je préfère ne pas répondre et laisser planer un mystère. Si éventuellement il y a un lac sur lequel on pourrait même faire de la barque. Hein. Mais en même temps, c'est très intéressant cette légende sous la lac.
Avec parce des poissons. Oui.
Avec des poissons. C'est très intéressant parce qu'on touche à la philosophie. Pourquoi est-ce qu'il y a un lac précisément sous la cathédrale. Et cette légende nous renvoie aussi à la philosophie de Platon avec la caverne. Ce lac signifierait aussi peut-être l'endroit où les âmes perdues, les âmes errantes sont prisonnières.
Ah oui. Mais c'est aussi la civilisation égyptienne avec le dieu Thoth qui transporte les âmes sur cette barque.
Sur cette fameuse barque qui traverserait le lac sous la cathédrale.
Voilà. Ouais. Voilà. C'est un dieu absolument formidable, Thoth. Là, je fais une petite digression. Il est bicéphale. Hein, c'est un babouin et un ibis. Et c'est lui qui a inventé l'écriture, entre guillemets, parce que entre le Haut Nil et le Bas Nil, il se tapait dessus en criant. Parce que quand il y avait des inondations, et pour planter du riz. Et lui, il a dit, au lieu de se battre, il faut négocier, il faut discuter. Et c'est un très beau prénom, puisque je l'ai donné en quatrième prénom à ma fille. Fin de la parenthèse. Mais dans cette émission, donc, vous l'avez bien connue, la recherche de l'histoire, du passé, ce que vous venez de me dire, Robert Becha, c'est que le point de vue des historiens peut être différent l'un de l'autre. Ça dépend des moyens d'investigation. Est-ce que parfois vous vous opposez à des collègues historiens et peut-être même des guides qui vont dire non mais c'est faux, c'est pas comme ça
Alors non, j'essaie de faire mes chroniques ou mes vidéos historiques quand même sur des faits qui sont vérifiés, que je revérifie plusieurs fois, que je soumets mes textes aussi à des collègues historiens pour ne laisser planer aucun doute. Après, l'histoire est une matière scientifique quand même. L'attribut très dangereux, le versant très dangereux, bien sûr on l'a connu au cours du XXe siècle, hein, et même encore aujourd'hui, c'est le négationnisme. C'est-à-dire qu'il y a des faits historiques sur lesquels il n'y a pas à débattre, sur lesquels on ne peut pas discuter, parce que la vérité historique est tellement forte devant nous, au-delà de l'émotion d'ailleurs,
oui, mais elle est forte,
qu'on ne peut pas l'interpréter.
Prenons cet exemple justement. Quelles sont les investigations, quelles sont les preuves ? Alors, il y a le livre de Raoul Hilberg qui a retrouvé le nom du serrurier qui a fait les portes des fours, des chambres à gaz à Auschwitz. Donc là, avec la facture. Donc, c'est pas discutable. Mais comment est-ce que les historiens peuvent s'accorder sur des choses parce que souvent, ils se citent entre eux, non ?
Oui, un travail d'un historien peut en nourrir un autre de toute façon, mais le plus important c'est vraiment la recherche de sources même quelquefois contradictoires ou pluridisciplinaires pour arriver à quelque chose de tangible et de qu'on ne remet plus en cause. Et tout le travail des négationnistes c'est justement d'arriver à avoir plusieurs interprétations sur un fait historique et quelque part le dénaturer complètement pour arriver à la fin à dire « Ah non, vous voyez, ça n'a pas existé comme cela. »
Alors, voilà. Est-ce qu'un témoin peut être crédible dans ces cas-là ? Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « C'était comme ça et comme ça ». Et est-ce qu'il a raison ou pas? Là, je développerai ma question après votre réponse. Bah,
le problème des témoignages, c'est qu'ils sont souvent emprunts d'abord d'un parcours
d'émotion,
d'un parcours personnel, d'une vision propre. Et vous venez de citer la facture du serrurier qui a construit les portes des fours crématoires. Ça, c'est, par exemple, c'est un fait tangible. On ne peut pas discuter.
Ça se discute
on
pas.
A une facture, on sait où ces portes étaient installées, on sait à quoi elles ont servi. Il n'y a pas à débattre.
Oui. Alors, j'ai un exemple, justement. J'ai eu, dans une carrière précédente, comme journaliste, j'ai eu le plaisir d'accompagner Henri Amouroux, le grand historien, un voyage à Auschwitz de plus d'une semaine avec le ministère de la Mémoire, enfin, voilà. Et on était accompagné par des survivants, c'était avant la chute du mur de Berlin, donc vers 85-86, notamment un monsieur Albert, et qui disait « c'était comme ça, comme ça, comme ça ». Et Henri Amouroux lui disait « non, c'est faux, c'était comme ça ». Et l'autre disait « mais attendez, moi j'étais sur place, je peux vous dire ». Et Henri Amouroux disait « non », et il sortait des cartes, des plans, il expliquait. Et je me souviens, avec lui, on a sorti un décamètre et on a mesuré la taille des chambres à gaz. Et il y avait des calculs scientifiques sur le nombre de personnes qui pouvaient rentrer dans la chambre à gaz. Et Amouroux disait « dans mes livres, je ne conserve jamais les témoignages des gens, je recherche des faits.
Oui. »
Et le passé, ce sont des faits et non pas une légende qui se transmet de génération en génération. Les légendes qu'on se transmet comme ça, ça fait des contes. Alors, ça fait des belles histoires qui ont une véracité, puisqu'elles donnent l'ambiance et elles expliquent, mais ce ne sont pas des faits tangibles pour un historien.
Oui, tout à fait, oui.
Oui. Et alors vous, vous êtes prof dans un collège, mais vous tapez dans les bouquins qui ont déjà été écrits, je ne sais pas moi, de tous l'équivalent de... l'histoire de France raconte...
Les manuels sont réactualisés assez régulièrement, mais...
Michelet est encore...
On est au XXe siècle quand même, on a un peu dépassé ça, puis on s'agit beaucoup plus d'histoires contextualisées, et aussi de l'histoire, pas forcément des grands personnages, mais nous avons tout un chapitre, par exemple, sous l'époque médiévale, où on met plus en avant les paysans, les
Georges
serfs,
Duby.
Plutôt Georges Duby, mm-hmm. Une petite France qu'on ne parlait pas trop il y a encore quelques années, au-delà de l'histoire des grands hommes.
Oui. Alors, justement, quand on découvre ce qui ressemble à une pierre mal taillée et qu'on sait y lire un détail qui raconte l'épopée, alors par exemple en Alsace de Jules César, on a su qu'il faisait des travaux de poterie pour le plaisir. Bon, je ne sais pas comment on a découvert ça, mais on a trouvé des fours à poterie, je crois, dans le coin d'Aubernais. Et il y avait les initiales de Jules César. Et puis, il a aussi construit les fameux ponts, deux ou trois ponts, pour aller du côté du
Rhin,
pour chasser. Alors ça, c'est dans la guerre des Gaules, il en parle. Gallia est omni divisa in parte stress. Vieille réminiscence. Et on peut se demander quand même... en laissant tout cela des traces, comme Raymond Weidelich qui laisse des traces sous la cathédrale de Strasbourg, qu'est-ce que nos ancêtres ont voulu nous laisser? Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire? Est-ce que Jules César s'est dit, dans 20 siècles, il y aura un Robert Betcha qui va interpréter le petit bout de poterie sur lequel j'ai gravé mon nom?
Non, je pense pas, non. Puis j'ai pas cette ambition de remonter jusqu'à Jules César pour savoir si éventuellement il penserait 20 siècles plus tard si j'allais faire une chronique sur lui. Par contre, Jules César était un grand chef de guerre déjà, et en plus on n'a que sa version, on n'a que la version des vainqueurs, la guerre des Gaules contre les Gaulois, on n'a que la version des vainqueurs. On a aujourd'hui l'archéologie qui nous prouve qu'il faut remettre aussi un peu en question le discours de Jules César par rapport à cette guerre des Gaules. Et Jules César était contemporain de son époque, donc il écrivait aussi comme un homme politique.
Mais
en tant que chef de guerre qu'il était aussi, un homme politique aussi, pour s'asseoir un pouvoir sur Rome aussi.
Mais il avait quand même la notion de la postérité. S'il écrivait ça, c'est bien qu'il pensait qu'un jour lointain, entre guillemets...
Je ne sais pas, la guerre des Gaules reste aussi un pamphlet politique. D'ailleurs, dès que ses écrits ont été finis, c'était envoyé à Rome pour montrer la puissance de Jules César et son génie militaire pour avoir vaincu toutes les différentes tribus gauloises.
Alors, bon, la notion du temps 52 avant Jésus-Christ, c'était quoi?
Oh là là, question piège.
Bon, c'est Alésia, hein, 52 avant
c'est,
Jésus-Christ.
Oui, c'est Alésia, je crois, de mémoire, c'est Alésia. Oui. En tout cas, Strasbourg n'existait pas encore.
Non. Non, puisque le camp de Strasbourg était...
Le camp de Strasbourg remonte à moins 12. C'était un camp assez sommaire de cavaliers romains qui servait de premier camp sur le Rhin.
C'est Place du Château, hein, je crois.
C'était Place du Château.
À côté de la cathédrale.
Sur la grande île.
Oui.
Et c'était un premier camp retranché, pour servir de tête de pont pour une éventuelle invasion de la Germanie à l'époque.
Mais est-ce qu'à l'époque, on ne pensait pas qu'il fallait laisser une trace pour la postérité? C'est ça ma question. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut avoir une notion de l'idée de la transmission du patrimoine?
C'est une bonne question. Aujourd'hui, par exemple, est-ce que nous construisons pour un avenir très lointain, en sachant que les immeubles que nous construisons vont se perdurer dans l'histoire à l'épreuve du temps?
Oui, est-ce que en 2174 à Strasbourg, on aura laissé une trace comme aujourd'hui on se glorifie de l'occupation des Allemands en 1870, on l'inscrit même au patrimoine de l'UNESCO, hein, on est content d'avoir été envahi.
C'est la deuxième inscription d'ailleurs après la Grande Île.
Oui. La Neustadt. Donc ça c'était il y a 150 ans. On en garde la mémoire et on s'en glorifie et on fait tout un pataquès tout autour de ça, positif. Hein. Est-ce que en 2174 à Strasbourg, on va se souvenir de... Alors, le problème c'est qu'à l'époque on construisait avec des pierres de taille d'un mètre de largeur dans du grès des Vosges et qu'aujourd'hui on construit avec de l'acier, du verre, et on n'est pas...
Et c'est beaucoup plus... qui prend l'eau, c'est beaucoup plus friable à l'épreuve du temps. Il y a un monument qui disparaîtra jamais à Strasbourg, quelles que soient les guerres, les intempéries, le climat, le réchauffement climatique...
La cathédrale
L'usure du temps et l'usure des hommes sur ces monuments, c'est la cathédrale. C'est le véritable héritage de Strasbourg, c'est la continuité historique de la ville depuis plus de 800 ans, depuis 1000 ans, si on part vraiment des fondations de la cathédrale, et qui raconte notre histoire aussi, quelque part, l'histoire de la ville. Et ce monument ne disparaîtra jamais.
Est-ce qu'il sera un jour, alors c'est aussi doté d'une deuxième flèche, par exemple. Alors ça, c'est le truc du 1er avril, ça y est, la municipalité a décidé de construire la deuxième flèche de la cathédrale, mais est-ce qu'on peut modifier un monument comme Notre-Dame de Paris, maintenant, la philosophie, est-ce qu'on fait du neuf avec du vieux, ou est-ce qu'on reproduit le vieux qui lui-même a été... au 19e siècle.
Par Viollet-le-Duc, la cathédrale de Notre-Dame de Paris ne correspond pas
à ce qu'il y avait au Moyen-Âge.
À ce qu'il y avait au Moyen-Âge, parce qu'elle a été complètement refondée, repensée par Viollet-le-Duc. Toucher un monument historique, c'est toucher aussi à l'histoire et à ce que les hommes ont voulu justement nous transmettre. Alors, elle n'est pas finie, c'est vrai. Elle est inachevée. Et à chaque... Louis XIV, déjà, pensait
Mais il a terminer. Sa statue, Louis XIV, à Londres.
Il a sa statue équestre.
Alors que ça a été rajouté après.
Ça a été rajouté après. D'ailleurs, on a supprimé une statue équestre pour mettre celle de Louis XIV. C'est très intéressant, on a supprimé celle de Charlemagne.
Ah voilà. Oui, alors ça, on peut dire aux auditeurs, si un jour vous repassez devant la cathédrale...
Et celle de Charlemagne est sous les ponts couverts.
Oui.
Stockée. Elle a été ôtée pour mettre la statue équestre de
Louis
XIV.
Qui est à une quinzaine de mètres de haut, à l'angle...
À l'angle de la place...
Quand on remonte la rue Mercière, c'est juste quand on va à la rue du Château.
Là, à l'angle de la place du Château. Oui. À chaque période historique, on a voulu terminer la cathédrale de Strasbourg. La période allemande aussi, en 1871-72, les Allemands s'y sont intéressés, on fait des projets pour une deuxième flèche, mais quelque part ça dénature un peu, le bâtiment, l'édifice en tant que tel.
Oui, aujourd'hui, mais est-ce que c'est sacralisé
aujourd'hui elle est connue en tant que telle, et rajouter une deuxième flèche ne correspondrait plus à rien. Cette flèche unique qui tend vers le ciel, c'est le doigt de Dieu.
Ou le doigt d'honneur de Dieu, mais notre Père qui es aux cieux, restez-y, et nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si jolie. J'aime bien citer ça de Jacques Prévert, dont le nom a été donné à une école maternelle à Schiltigheim, donc on a le droit de blasphémer. Mais sur la cathédrale, là justement, à la place de la flèche, il y a une espèce de bâtiment, on a l'impression que c'est un truc fait pour stocker les balais du...
Ah, c'est la maison des gardiens.
Oui.
Alors, c'est la maison des gardiens qui, elle...
ça date du 19e.
Ah non, c'est beaucoup, beaucoup plus vieux. Ça date dès, d'ailleurs, la première flèche du 16e siècle. Il y avait déjà une maison des gardiens. D'ailleurs, gardien de quoi, d'ailleurs?
Oui.
Eh bien, gardien de la ville.
De
Goethe, les hommes qui étaient installés là-en-haut, jour et nuit, jour pour accueillir le public, et la nuit, surtout, pour surveiller la ville. Il faut savoir que les pompiers n'existaient pas. Pour surveiller la ville en cas d'incendie. Et ils étaient munis d'une cloche, d'ailleurs un Toscain qui se trouve au niveau du beffroi, pour alerter la population en cas de début d'incendie. C'est servi de pire pour une ville, hein. C'est la famine, les épidémies et surtout les incendies.
Alors cette sacralisation, quelle que soit la religion ou pas de religion, c'est de l'histoire, ce n'est pas lié à une culture religieuse ou quoi que ce soit. D'ailleurs, la cathédrale de Strasbourg a été protestante, catholique, ça a changé. Mais le deuxième monument dans le Bas-Rhin ou en Alsace, c'est l'abbatiale de Wissembourg, hein, en taille. Elle a servi à la révolution d'écurie. Hein, il y avait les chevaux qui étaient dedans et tout. Donc et malheureusement, ils ont bousillé les statues parce que ça avait un sens politique de se débarrasser du clergé qui opprimait le bon peuple. Est-ce que c'est des dangers qui risquent, je dis danger, donc là c'est bien sûr une critique, est-ce que c'est des dangers qui risquent de se passer, d'arriver, je sais pas, de 50 ans, 100 ans, on dit voilà, c'est une insulte à la laïcité, la cathédrale de Strasbourg, ça va devenir une grande MJC par exemple.
une MJC, je ne sais pas.
Au Canada, c'est ça. Hein.
Ce que je sais, c'est que la furie révolutionnaire en 1792 a en effet voulu s'attaquer à la cathédrale de Strasbourg, et notamment à notre fameuse flèche. Et c'est un monsieur qui va la sauver, dont le nom m'échappe, mais on pourra facilement le retrouver hein, sur Internet, et qui va proposer au comité révolutionnaire de hisser un bonnet phrygien en métal sur la flèche de la cathédrale.
Oui, c'est une anecdote qui est très drôle. Oui.
C'est véridique en plus. Et ça a été accepté. Donc il y a un bonnet phrygien peint en rouge qui a été installé sur la flèche de la cathédrale et qui a pu préserver cette tour et cette flèche de la furie révolutionnaire. Le monument, le bonnet a été déposé au moment de l'Empire et malheureusement, il a disparu dans les flammes en 1870 lors du bombardement.
Oui.
Mais là, on a en effet, c'était la Révolution française, les révolutionnaires ont voulu amputer la cathédrale de Strasbourg.
Alors on parle de l'incendie de...
Et l'édifice a été fermé d'ailleurs. Fermé pendant de longs mois, puis avec une ouverture pour en faire un temple de la raison.
À l'époque. Temple de la raison.
Un temple de la raison.
Ouais. Ouais. Avec des parrains, des parrains et le patronyme Perrin, que j'ai l'honneur de porter, dans les Vosges, souvent c'était des parrains de l'arbre de la raison qui était planté dans les villages, notamment dans les Vosges, qui a été le premier département, c'est pour ça qu'il y a la place des Vosges à Strasbourg, à Paris. Justement, on évoque l'incendie de 1870. Il y a toute une mémoire de Strasbourg qui a disparu à ce moment-là.
Ah, complètement. Ouais. Hélas, les bombardements de septembre 1870 par l'armée prussienne, quand même plus de 200 000 obus hein, sur Strasbourg, pour une ville qui comptait que 80 000 habitants, a détruit énormément d'habitants, d'abord de morts,
belles maisons.
De belles maisons. Les archives de la ville ont littéralement disparu. Plus de 1500 morts quand même, plus de 3000 personnes qui sont devenues sans abri. Et puis des joyaux, des trésors inestimables qui sont hélas passés dans les flammes. La cathédrale de Strasbourg elle-même, le toit de la nef avait pris feu et a disparu dans les flammes. C'était un véritable drame.
Oui.
Et c'est la première fois que les villes de Strasbourg se faisaient bombarder d'ailleurs.
Oui.
De son histoire.
Alors que pendant la Seconde Guerre mondiale... La cathédrale n'a pas été trop touchée.
Elle n'a pas été trop touchée et là, c'est plutôt des habitations civiles qui ont été touchées, comme le quartier de Neudorf, qui a beaucoup souffert des bombardements alliés à cette époque-là.
Parce qu'il y avait des usines là-bas et donc...
Oui, mais après, on n'avait pas le téléguidage des bombes tel qu'on peut aujourd'hui le connaître. Et le quartier de la Méno aussi a beaucoup souffert, notamment pour la présence des usines à ce moment-là.
Alors pour en revenir à notre sens du passé et de notre recherche du temps perdu, être guide, professeur, bénévole, enthousiaste, qui ne fait pas payer d'ailleurs les gens avec qui il fait les visites, est-ce que c'est une façon de dire « je sais », ce qui veut dire « c'est passionnant, je suis passionné et je vais partager avec vous ma passion » mais c'est aussi une façon de dire ce petit caillou qui raconte tellement de choses que moi, j'ai réussi à le décrypter. Ce caillou ne va pas mourir. Il va continuer à avoir du sens grâce à vous, les touristes qui sont autour de moi. Est-ce que vous prolongez le temps de vie des choses ?
Je leur donne sûrement une seconde vie à travers la transmission de ma passion. Moi, je suis enseignant et chaque moment de ma vie a été enrichi justement entre cette alternance entre mon métier, de faire vivre l'histoire pour des élèves, pour des plus jeunes, et ma passion pour l'histoire de Strasbourg, l'histoire de ma ville. Et cette transmission sur des choses auxquelles je crois et qui me touchent et qui me font plaisir, j'ai envie de le partager avec le plus grand nombre. Voilà. Et je considère que si j'insiste sur cette question de la gratuité, c'est que donner un savoir ou une histoire ou une information ne doit pas forcément être rémunéré. Comme c'est important, c'est gratuit.
Alors justement, vous transmettez tout ça à vos élèves. Alors la question peut être bateau, mais quand même, est-ce que les élèves aujourd'hui, en 2024, s'intéressent encore à l'histoire ? Alors c'est une question globale, générale. Est-ce qu'ils ont ce sens du patrimoine ?
Eh ben oui, paradoxalement, les élèves sont très très curieux par rapport à l'histoire, notamment peut-être plus l'histoire aussi contemporaine. Tout le XXe siècle est quand même traversé par des guerres qui ont touché aussi leur famille. Leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, et surtout ici en Alsace, et puis il y a une fascination pour l'histoire antique, notamment les Égyptiens ou l'apogée de Rome. Et l'histoire est une discipline justement très intéressante parce qu'on peut toucher à tout. On peut parler du climat, comme on peut parler justement des individus, des gens les plus simples, comme les plus grands personnages de l'histoire, et puis des lieux, des villes, de la vie, quoi, quelque part.
On se gargarise parfois de sondages qui disent que les jeunes, je ne sais plus, à 80%, confondent le XVIIIe siècle avec le début de la Seconde Guerre mondiale, ne savent pas Auschwitz, ils ne savent pas ce que ça veut dire, et que Biafra, c'est une maladie des enfants en Afrique qui ont le gros ventre. Est-ce que vous avez des élèves comme ça qui sont aussi ignares ?
Oui, ça existe, bien sûr, mais c'est qu'une minorité. Après, il faut éviter les généralisations. Après, l'histoire, c'est aussi dans nos sociétés, c'est vrai, vous venez de le dire, en perte de repères, c'est aussi, quelque part, un retour aux sources, justement, en la jalonnant de dates, d'événements fondateurs, en rappelant aussi des définitions, des lieux, des moments plus critiques de l'histoire, notamment la Shoah lors de la Seconde Guerre mondiale, et de refonder aussi quelque chose qui soit tangible. Et nous avons tous besoin d'histoire aujourd'hui. L'histoire, c'est le phare dans la nuit.
Alors Robert Becha, dans 2 siècles ou dans 3 siècles, quel est l'événement dont on devra se souvenir pour le XXe siècle ?
Pour le XXe siècle ou le XXIe siècle ? Pour le XXe siècle...
Le XXIe, ça commence, mais...
L'élément, alors c'est un avis très personnel, encore une fois, c'est un ressenti très personnel que je vais vous confier, mais l'élément le plus important, le plus fondateur aussi peut-être du XXe siècle, c'est bien sûr la Shoah, c'est-à-dire l'industrialisation de la mort. C'est-à-dire qu'on construit une usine pour tuer des gens. On ne construit pas une usine pour fabriquer des bombes, pour fabriquer des avions, pour fabriquer des tanks. En temps de guerre, ça pourrait se comprendre.
Ou des boîtes de conserve pour nourrir tout le monde.
Ça pourrait se comprendre, c'est légitime. Là, on a construit une usine, c'est-à-dire il faut avant un architecte, il faut un serrurier pour faire des portes, il faut des menuisiers, il faut des maçons, dans le seul objectif de tuer des gens d'une façon industrielle.
Alors, il y a une réponse à la question, et la réponse, c'était l'homme qui a marché sur la Lune. Donc, c'est bien quelque chose de subjectif,
oui.
Et c'est bien une bonne raison de faire des émissions où l'on parle du passé, où l'on parle de la mémoire, où l'on vénère Modiano, où l'on vénère Proust. Merci Robert Becha, c'était l'épisode numéro 68 de « Vous l'avez bien connu aujourd'hui ». L'étourdissement des paysages et des ruines, c'est une phrase de l'éducation sentimentale de Flaubert. Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. Il revint. À la technique aujourd'hui, Thomas Marinelli. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. Et mon nom est Ambroise Perrin.